L'homme qui rit, deuxième partie, livre 2, Victor Hugo. Où l'on voit le visage de celui dont on n'a encore vu que les actions. La nature avait été prodigue de ses bienfaits envers Gwynplaine. Elle lui avait donné une bouche s'ouvrant jusqu'aux oreilles, des oreilles se repliant jusque sur les yeux, un nez informe fait pour l'oscillation des lunettes de grimacier, et un visage qu'on ne pouvait regarder sans rire. Nous venons de le dire, la nature avait comblé Gwynplaine de ses dons. Mais était-ce la nature? Ne l'avait-on pas aidée? Deux yeux pareils à des jours de souffrance, un hiatus pour bouche, une protubérance camuse avec deux trous qui étaient les narines, pour face un écrasement, et tout cela ayant pour résultante le rire, il est certain que la nature ne produit pas toute seule de tels chefs-d'œuvre. Seulement, le rire est-il synonyme de la joie? Si en présence de ce battleur, car c'était un battleur, on laissait se dissiper la première impression de gaieté, et si l'on observait cet homme avec attention, on y reconnaissait la trace de l'art. Un pareil visage n'était pas fortuit, mais voulu. Être à ce point complet n'est pas dans la nature. L'homme ne peut rien sur sa beauté, mais peut tout sur sa laideur. D'un profil hottentote, vous ne ferez pas un profil romain, mais d'un nez grec, vous pouvez faire un nez kalmouk. Il suffit d'oblitérer la racine du nez et d'épater les narines. Le bas latin du Moyen-Âge n'a pas créé pour rien le verbe « dénésare ». Gwynplaine enfant avait-il été assez digne d'attention pour qu'on s'occupât de lui au point de modifier son visage? Pourquoi pas? Ne fût-ce que dans un but d'exhibition et de spéculation? Selon toute apparence, d'industrieux manieurs d'enfants avaient travaillé cette figure. Il semblait évident qu'une science mystérieuse, probablement occulte, qui était à la chirurgie ce que l'alchimie est à la chimie, avait ciselé cette chair à coup sûr dans le très bas âge et créé, avec préméditation, ce visage. Cette science, habile aux sections, aux obtusions et aux ligatures, avait fendu la bouche, débridé les lèvres, dénudé les gencives, distendu les oreilles, décloisonné les cartilages, désordonné les sourcils et les joues, élargi le muscle zygomatique, estompé les coutures et les cicatrices, ramené la peau sur les lésions, tout en maintenant la face à l'état béant. Et de cette sculpture puissante et profonde était sorti ce masque, Gwynplaine. On ne naît pas ainsi. Quoi qu'il en fût, Gwynplaine était admirablement réussi. Gwynplaine était un don fait par la providence à la tristesse des hommes. Par quelle providence? Y a-t-il une providence démon comme y a-t-il une providence Dieu? Nous posons la question sans la résoudre. Gwynplaine était saltimbanque. Il se faisait voir en public, pas d'effet comparable au sien. Il guérissait les hypochondries rien qu'en se montrant. Il était à éviter pour des gens en deuil, confus et forcés, s'ils l'apercevaient, de rire indécemment. Un jour, le bourreau vint, et Gwynplaine le fit rire. On voyait Gwynplaine, on se tenait les côtes. Il parlait, on se roulait à terre. Il était le pôle opposé du chagrin. Spleen était à un bout et Gwynplaine à l'autre. Aussi était-il parvenu rapidement, dans les champs de foire et dans les carrefours, à une forte satisfaisante renommée d'homme horrible. C'est en riant que Gwynplaine faisait rire, et pourtant il ne riait pas. Sa face riait, sa pensée non. L'espèce de visage inouï que le hasard ou une industrie bizarrement spéciale lui avait façonné riait tout seul. Gwynplaine ne s'en mêlait pas. Le dehors ne dépendait pas du dedans. Ce rire, qu'il n'avait point mis sur son front, sur ses joues, sur ses sourcils, sur sa bouche, il ne pouvait l'en ôter. On lui avait à jamais appliqué le rire sur le visage. C'était un rire automatique. et d'autant plus irrésistible qu'il était pétrifié. Personne ne se dérobait à ce rictus. Deux convulsions de la bouche sont communicatives, le rire et le bâillement. Par la vertu de la mystérieuse opération probablement subie par Gwynplaine enfant, toutes les parties de son visage contribuaient à ce rictus. Toute sa physionomie y aboutissait, comme une roue se concentre sur le moyeu. Toutes ses émotions, quelles qu'elles fussent, augmentaient cette étrange figure de joie, disons mieux, l'aggravaient. Un étonnement qu'il aurait eu, une souffrance qu'il aurait ressentie, une colère qui lui serait survenue, une pitié qu'il aurait éprouvée, n'eussent fait qu'accroître cette hilarité des muscles. S'il eût pleuré, il eût ri. Et quoi que fît Gwynplaine, quoi qu'il voulût, quoi qu'il pensât, dès qu'il levait la tête, la foule, si la foule était là, avait devant les yeux cette apparition, l'éclat d'un rire foudroyant. Qu'on se figure une tête de méduse gaie. Tout ce qu'on avait dans l'esprit était mis en déroute par cet inattendu, et il fallait rire. L'art antique appliquait jadis au fronton des théâtres de la Grèce une face d'airain joyeuse. Cette face s'appelait la comédie. Ce bronze semblait rire et faisait rire et était pensif. Toute la parodie, qui aboutit à la démence, toute l'ironie, qui aboutit à la sagesse, se condensait et s'amalgamait sur cette figure. La somme des soucis, des désillusions, des dégoûts et des chagrins se faisait sur ce front impassible et donnait ce total lugubre la gaieté. Un coin de la bouche était relevé, du côté du genre humain, par la moquerie, et l'autre coin, du côté des dieux, par le blasphème. Les hommes venaient confronter à ce modèle du sarcasme idéal l'exemplaire d'ironie que chacun a en soi. Et la foule, sans cesse renouvelée autour de ce rire fixe, se pâmait d'aise devant l'immobilité sépulcrale du ricanement. Ce sombre masque mort de la comédie antique, ajusté à un homme vivant, on pourrait presque dire que c'était là Gwynplaine. Cette tête, infernale de l'hilarité implacable, il l'avait sur le cou. Quel fardeau pour les épaules d'un homme, le rire éternel. Rire éternel, entendons-nous et expliquons-nous, à en croire les manichéens, l'absolu plie par moments, et Dieu lui-même a des intermittences. Entendons-nous aussi sur la volonté. Qu'elle puisse jamais être tout à fait impuissante, nous ne l'admettons pas. Toute existence ressemble à une lettre, que modifie le post-scriptum. Pour Gwynplaine, le post-scriptum était ceci. À force de volonté, en y concentrant toute son attention, et à la condition qu'aucune émotion ne vînt le distraire et détendre la fixité de son effort, il pouvait parvenir à suspendre l'éternel rictus de sa face et à y jeter une sorte de voile tragique. Et alors, on ne riait plus devant lui. On frissonnait. Cet effort, Gwynplaine, disons-le, ne le faisait presque jamais, car c'était une fatigue douloureuse et une tension insupportable. Il suffisait d'ailleurs de la moindre distraction et de la moindre émotion pour que, chassé un moment, ce rire, irrésistible comme un reflux, reparût sur sa face. Et il était d'autant plus intense que l'émotion, quelle qu'elle fût, était plus forte. À cette restriction près, le rire de Gwynplaine était éternel. On voyait Gwynplaine, on riait. Quand on avait ri, on détournait la tête. Les femmes, surtout, avaient horreur. Cet homme était effroyable. La convulsion bouffonne était comme un tribut payé. On la subissait joyeusement, mais presque mécaniquement. Après quoi, une fois le rire refroidi, Gwynplaine, pour une femme, était insupportable à voir et impossible à regarder. Il était du reste grand, bien fait, agile, nullement difforme, si ce n'est de visage. Ceci était une indication de plus parmi les présomptions qui laissaient entrevoir dans Gwynplaine plutôt une création de l'art qu'une œuvre de la nature. Gwynplaine, beau de corps, avait probablement été beau de figure. En naissant, il avait dû être un enfant comme un autre. On avait conservé le corps intact. Et seulement retoucher la face. Gwynplaine avait été fait exprès. Gwynplaine avait été faite exprès. C'était là du moins la vraisemblance. On lui avait laissé les dents. Les dents sont nécessaires au rire. La tête de mort les garde. L'opération faite sur lui avait dû être affreuse. Il ne s'en souvenait pas, ce qui ne prouvait point qu'il ne l'eût pas subi. Cette sculpture chirurgicale n'avait pu réussir que sur un enfant tout petit, et par conséquent ayant peu de conscience de ce qui lui arrivait, et pouvant aisément prendre une plaie pour une maladie. En outre, dès ce temps-là, on se le rappelle, les moyens d'endormir le patient et de supprimer la souffrance étaient connus. Seulement, à cette époque, on les appelait magie. Aujourd'hui, on les appelle anesthésie. Outre ce visage, ceux qui l'avaient élevé lui avaient donné des ressources de gymnaste et d'athlète. Ses articulations, utilement disloquées et propres à des flexions en sens inverse, avaient reçu une éducation de clown et pouvaient, comme des gonds de porte, se mouvoir dans tous les sens. Dans son appropriation au métier de saltimbanque, rien n'avait été négligé. Ses cheveux avaient été teints couleur d'ocre une fois pour toutes. Secret qu'on a retrouvé de nos jours. Les jolies femmes en usent. Ce qui en les dissait autrefois et aujourd'hui jugé bon pour les embellir. Gwynplaine avait les cheveux jaunes. Cette peinture des cheveux, apparemment corrosive, les avait laissés laineux et bourrus au toucher. Ce hérissement fauve, plutôt crinière que chevelure, couvrait et cachait un profond crâne fait pour contenir de la pensée. L'opération quelconque qui avait ôté l'harmonie au visage et mis toute cette chair en désordre n'avait pas eu prise sur la boîte osseuse. L'angle facial de Gwynplaine était puissant et surprenant. Derrière ce rire, il y avait une âme, faisant, comme nous tous, un songe. Du reste, ce rire était pour Gwynplaine tout un talent. Il n'y pouvait rien et il en tirait parti. Au moyen de ce rire, il gagnait sa vie. Gwynplaine, on l'a sans doute déjà reconnu, était cet enfant abandonné un soir d'hiver sur la côte de Portland et recueilli dans une pauvre cahute roulante à Weymouth. L'enfant était à cette heure un homme. 15 ans s'étaient écoulés. On était en 1705. Gwynplaine touchait à ses 25 ans. Ursus avait gardé avec lui les deux enfants. Cela avait fait un groupe nomade. Ursus et Homo avaient vieilli. Ursus était devenu tout à fait chauve. Le loup grisonnait. L'âge des loups n'est pas fixé comme l'âge des chiens. Selon Molin, il y a des loups qui vivent 80 ans. Entre autres, le petit Coupara, Caviae vorus, et le loup odorant, Canis nubilus de Sey. La petite fille trouvée sur la femme morte était maintenant une grande créature de 16 ans, pâle, avec des cheveux bruns, mince, frêle, presque tremblante, à force de délicatesse, et donnant la peur de la briser, admirablement belle, les yeux pleins de lumière, aveugle. La fatale nuit d'hiver qui avait renversé la mendiante et son enfant dans la neige avait fait coup double. Elle avait tué la mère et aveuglé la fille. La goutte sereine avait à jamais paralysé les prunelles de cette fille, devenue femme à son tour. Sur son visage, à travers lequel le jour ne passait point, les coins des lèvres tristement abaissés exprimaient ce désappointement amer. Ses yeux, grands et clairs, avaient cela d'étrange qu'éteint pour elle, pour les autres ils brillaient. Mystérieux flambeaux allumés n'éclairant que le dehors. Elle donnait de la lumière, elle qui n'en avait pas. Ses yeux disparus resplendissaient. Cette captive des ténèbres blanchissait le milieu sombre où elle était. Du fond de son obscurité incurable, de derrière ce mur noir qu'on nomme la cécité, elle jetait un rayonnement. Elle ne voyait pas hors d'elle le soleil, et l'on voyait en elle son âme. Son regard mort avait on ne sait quelle fixité céleste. Elle était la nuit de cette ombre irrémédiable amalgamée à elle-même, elle sortait astre. Ursus, maniaque de nom latin, l'avait baptisée Dea. Il avait un peu consulté son loup. Il lui avait dit « Tu représentes l'homme, je représente la bête. Nous sommes le monde d'en bas. Cette petite représentera le monde d'en haut. Tant de faiblesse, c'est la toute-puissance. » De cette façon, l'univers complet, humanité, bestialité, divinité, sera dans notre cahute. Le loup n'avait pas fait d'objection. Et c'est ainsi que l'enfant trouvé s'appelait Dea. Quant à Gwynplaine, Ursus n'avait pas eu la peine de lui inventer un nom. Le matin même du jour où il avait constaté le défigurement du petit garçon et la cécité de la petite fille, il avait demandé « Boy, comment t'appelles-tu » Et le petit garçon avait répondu « On m'appelle Gwynplaine. » « Va pour Gwynplaine, » avait dit Ursus. Dea assistait Gwynplaine dans ses exercices. Si la misère humaine pouvait être résumée, elle lui était par Gwynplaine et Dea. Ils semblaient être nés chacun dans un compartiment du sépulcre. Gwynplaine dans l'horrible, Dea dans le noir. Leur existence était faite avec des ténèbres d'espèces différentes, prises dans les deux côtés formidables de la nuit. Ces ténèbres, Dea les avait en elle et Gwynplaine les avait sur lui. Il y avait du fantôme dans Dea et du spectre dans Gwynplaine. Dea était dans le lugubre et Gwynplaine dans le pire. Il y avait pour Gwynplaine voyant une possibilité poignante qui n'existait pas pour Dea aveugle, se comparer aux autres hommes. Or, dans une situation comme celle de Gwynplaine, en admettant qu'il cherchât à s'en rendre compte, se comparer, c'était ne plus se comprendre. Avoir comme Dea un regard vide d'où le monde est absent, c'est une suprême détresse, moindre pourtant que celle-ci. Être sa propre énigme, sentir aussi quelque chose d'absent qui est soi-même, voir l'univers et ne pas se voir. Dea avait un voile, la nuit, et Gwynplaine avait un masque, sa face. Chose inexprimable, c'était avec sa propre chair que Gwynplaine était masquée. Quel était son visage? Il l'ignorait. Sa figure était dans l'évanouissement. On avait mis sur lui un faux lui-même, il avait pour face une disparition. Sa tête vivait et son visage était mort. Il ne se souvenait pas de l'avoir vu. Le genre humain, pour Dea comme pour Gwynplaine, était un fait extérieur. Ils en étaient loin. Elle était seule, il était seul. L'isolement de Dea était funèbre, elle ne voyait rien. L'isolement de Gwynplaine était sinistre, il voyait tout. Pour Dea, la création ne dépassait point lui et le toucher. Le réel était borné, limité, court, tout de suite perdu. Elle n'avait pas d'autre infini que l'ombre. Pour Gwynplaine, vivre, c'était avoir à jamais la foule devant soi et hors de soi. Dea était la proscrite de la lumière, Gwynplaine était le banni de la vie. Certes, c'était là deux désespérés, le fond de la calamité possible était touché. Ils y étaient, lui comme elle. Un observateur qui les eût vus eût senti sa rêverie s'achever en une incommensurable pitié. Que ne devait-il pas souffrir ? Un décret de malheur pesait visiblement sur ces deux créatures humaines, et jamais la fatalité, autour de deux êtres qui n'avaient jamais rien fait, n'avait mieux arrangé la destinée en torture et la vie en enfer. Ils étaient dans un paradis. Ils s'aimaient. Gwynplaine adorait Dea. Dea idolâtrait Gwynplaine. « Tu es si beau !» lui disait-elle. Trois. oculos non habet et videt. Une seule femme sur la terre voyait Gwynplaine, c'était cet aveugle. Ce que Gwynplaine avait été pour elle, elle le savait par Ursus, à qui Gwynplaine avait raconté sa rude marche, de Portland à Weymouth et les agonies mêlées à son abandon. Elle savait que, toute petite, expirante sur sa mère expirée, tenant un cadavre, un être un peu moins petit qu'elle l'avait ramassé. Que cet être, éliminé comme enseveli sous le sombre refus universel, avait entendu son cri. Que, tous étant sourds pour lui, il n'avait pas été sourd pour elle. Que cet enfant, isolé, faible, rejeté, sans point d'appui ici-bas, se traînant dans le désert, épuisé de fatigue, brisé, avait accepté des mains de la nuit ce fardeau, un autre enfant. Que lui, qui n'avait point de part à attendre dans cette distribution obscure qu'on appelle le sort, il s'était chargé d'une destinée, que dénuement, angoisse et détresse, il s'était fait providence. Que le ciel se fermant, il avait ouvert son cœur. Que perdu, il avait été sauvé. Que n'ayant pas de toit ni d'abri, il avait été asile. Qu'il s'était fait mère et nourrice. Que lui, qui était seul au monde, il avait répondu au délaissement par une adoption. Que dans les ténèbres, il avait donné cet exemple. Que ne se trouvant pas assez accablé, il avait bien voulu de la misère d'un autre par surcroît. Que sur cette terre où il semblait qu'il n'y eût rien pour lui, il avait découvert le devoir. Que là où tous eussent hésité, il avait avancé. Que là où tous eussent reculé, il avait consenti. Qu'il avait mis sa main dans l'ouverture du sépulcre et qu'il l'en avait retirée, elle, Déa. Que demi-nu, il lui avait donné son haillon parce qu'elle avait froid. Qu'affamée, il avait songé à la faire boire et manger. Que pour cette petite, ce petit avait combattu la mort. Qu'il l'avait combattu sous toutes les formes. Sous la forme hiver et neige, sous la forme solitude, sous la forme terreur, sous la forme froid, faim et soif, sous la forme ouragan, que pour elle, Déa, ce titan de 10 ans avait livré bataille à l'immensité nocturne. Elle savait qu'il avait fait cela, enfant, et que maintenant, homme, il était sa force, à elle débile, sa richesse, à elle indigente, sa guérison à elle malade, son regard à elle aveugle. À travers les épaisseurs inconnues par qui elle se sentait tenue à distance, elle distinguait nettement ce dévouement, cette abnégation, ce courage. L'héroïsme, dans la région immatérielle, a un contour. Elle saisissait ce contour sublime. Dans l'inexprimable abstraction ou vine pensée que n'éclaire pas le soleil, elle percevait ce mystérieux linéament de la vertu. Dans cet entourage de choses obscures mises en mouvement qui était la seule impression que lui fit la réalité, dans cette stagnation inquiète de la créature passive, toujours au guet du péril possible, dans cette sensation d'être là sans défense qui est toute la vie de l'aveugle, elle constatait au-dessus d'elle Gwynplaine. Gwynplaine, jamais refroidi, jamais absent, jamais éclipsé. Gwynplaine, attendri, secourable et doux. Déa tressaillait de certitude et de reconnaissance. Son anxiété rassurée aboutissait à l'extase, et de ses yeux pleins de ténèbres, elle contemplait au zénith de son abîme cette bonté, lumière profonde. Dans l'idéal, la bonté, c'est le soleil. Et Gwynplaine éblouissait Déa. Pour la foule qui a trop de tête pour avoir une pensée et trop d'yeux pour avoir un regard, pour la foule qui, surface elle-même, s'arrête aux surfaces, Gwynplaine était un clown, un battleur, un saltimbanque, un grotesque, un peu plus et un peu moins qu'une bête. La foule ne connaissait que le visage. Pour Déa, Gwynplaine était le sauveur qui l'avait ramassé dans la tombe et emporté dehors, le consolateur qui lui faisait la vie possible, le libérateur dont elle sentait la main dans la sienne en ce labyrinthe qu'est la cécité. Gwynplaine était le frère, l'ami, le guide, le soutien, le semblable d'en haut, l'époux ailé et rayonnant et là où la multitude voyait le monstre, elle voyait l'archange. C'est que Déa, aveugle, apercevait l'âme.